Dans L'Argent de Poche, on tend le micro à des comédiens et des comédiennes pour qu'ils nous racontent les galères, les débrouilles de leur début. Certes, aujourd'hui, ils sont riches et célèbres.
Oui, enfin pas
mais
tous.
Mais hier, ils ont dû faire 1000 petits boulots avant de rejoindre le haut de l'affiche.
Alors que s'ils avaient eu l'application gratuite Au Max pour moi, ils auraient pu gérer leur argent facilement en réunissant tous leurs comptes et toutes leurs cartes au même endroit. Et ils auraient pu aussi augmenter leur pouvoir d'achat avec du cashback dans les plus grandes enseignes, profiter du zéro frais à l'étranger et payer avec leur téléphone ou leur montre connectée.
Ok, mais quand certains ont commencé, il n'y avait même pas le Bebop.
L'appli Au Max pour moi vous souhaite une bonne écoute de L'Argent de Poche.
Auteur.
L'Argent de Poche.
J'ai plein de projets en ce qui te concerne.
L'Argent de Poche.
Tu veux pas me prêter 1000 balles?
C'était quoi la question?
Qu'est-ce que tu sais faire?
Je gagnais ma vie en travaillant dans un magasin.
L'Argent de Poche, les grands acteurs aussi ont commencé petit.
Tollard, flic, guitariste manouche, vigile dans un supermarché ou médecin césarisé en 2015 pour sa prestation dans Hippocrate, si Reda Kateh peut tout jouer, il le doit à sa vie d'avant. Caissier dans un cinéma, projectionniste, job en centre d'appel, pour ce premier épisode de L'Argent de Poche, le podcast de Sofilm qui revient sur les petits boulots des grands acteurs, on le retrouve dans le bois de Vincennes où il nous confesse avoir été clown dans les goûters d'anniversaire.
J'ai fait le clown dans les anniversaires pour les enfants, les comités d'entreprise, des mariages, différents événements, le salon du camping-car au Bourget. Pendant, je dirais, peut-être 2-3 ans, à une période où j'avais, je dirais, 28-29 ans et où je faisais déjà du théâtre depuis un bon moment, où j'étais même intermittent du spectacle. Et en fait, je faisais ça pour arrondir un peu mes fins de mois. Ça me paraissait une chose pas mal. Et puis, c'était aussi assez formateur de se retrouver à animer des anniversaires avec 15 gamins. Ça allait en général de, je dirais, 4-5 ans jusqu'à 8-9 ans. Parfois, c'était génial. Parfois, j'allais vraiment au casse-pipe. Mais il y avait quelque chose où, quand la fête prenait, c'était vraiment assez magique. Mais après, je ne peux pas dire que j'ai fait réellement un travail sur mon clown. Je n'ai pas fait de stage de clown, d'atelier de clown. J'étais un clown un petit peu de pacotille, quoi. Un clown de goûter d'anniversaire. Voilà. Et un jour, en rentrant d'un stage en Inde au Rajasthan de percussion que j'avais fait financé par l'AFDAS, qui est un organisme qui finance des stages pour les intermittents du spectacle, on m'a envoyé au salon du camping-car au Bourget et j'y ai tenu la halte garderie. Il y avait d'abord une entrée, une espèce d'entrée en scène du clown ou du pirate ou du cow-boy, parce qu'on avait plusieurs personnages. Et puis ensuite, je maquillais les enfants, on faisait des jeux, il y avait de la magie, des marionnettes. Voilà, après c'était aussi beaucoup du feeling et beaucoup de l'improvisation dans l'instant, et plus une animation qu'un spectacle. C'était plus faire que les mômes passent un bon moment, tout simplement. Et que moi, j'en passe pas un trop mauvais. Le pire, c'était quand on m'envoyait comme cow-boy pour un enfant de 8 ans qui s'appelle Kevin. Là, je savais que je partais vraiment au casse-pipe, c'est le cas de le dire. Et donc, voilà, il y a des fois où je regardais ma montre en me demandant à quelle heure allait finir cette animation, comme si j'attendais une libération, quoi. Il y a des fois, c'était vraiment difficile. Le personnage du clown est un personnage un peu de souffre-douleur. Les enfants, pas tous, hein, du tout, mais beaucoup d'enfants à qui les parents payent un clown ou un autre animateur pour leur anniversaire sont souvent des parents qui passent pas beaucoup de temps avec leurs enfants. Donc même si c'est des enfants qui grandissent dans des milieux souvent privilégiés, ils ont un manque affectif et ils le font un peu payer à la personne qui est là, quoi. Ça arrive souvent. Je l'ai fait dans des périodes où j'avais le temps. En fait, je faisais à l'époque, je travaillais avec une compagnie qui s'appelle Théâtre du Chaos et avec laquelle j'allais jouer dans des collèges, des lycées, des prisons, des maisons de retraite. Et on faisait des improvisations avec les gens. Donc il y avait d'abord une petite piécette écrite. Et ensuite, autour de situations souvent de prévention, autour de l'alcoolisme, des drogues, du suicide, du sida, toutes ces choses-là, on faisait des impros avec les gens. Donc ça allait de jeunes collégiens à des retraités. Et je pense que là, ça a été un peu mon conservatoire. C'est-à-dire que j'ai fait 4 ans, je crois, avec cette compagnie. Et je pense que c'est vraiment là que j'ai appris, je dirais pas mon métier, que je continue encore d'apprendre aujourd'hui, mais que quelque chose s'est forgé de ma manière d'appréhender le travail d'acteur et qui reste encore avec moi aujourd'hui. J'ai commencé à travailler dans ce cinéma quand j'étais lycéen. Donc je passais mon bac et je travaillais à côté. J'avais déjà un petit studio. Je suis parti de chez mes parents très jeune. Et donc j'étais d'abord ouvreur, caissier, puis j'ai fait une formation de projectionniste. Je remplaçais le projectionniste. À l'époque, il n'y avait pas du tout le numérique comme aujourd'hui. Donc c'était de la pellicule. Il fallait apprendre à monter le film. On le recevait dans différentes bobines. Ensuite, une certaine manière de le placer sur le projecteur. Enfin, c'était tout un travail artisanal. C'est Cinéma Paradiso, quoi. Et du coup, j'ai adoré cette période où, à la fois, j'étais d'abord lycéen, puis étudiant, et où je travaillais dans le domaine qui me faisait le plus rêver. Et puis, quand on projetait un film, je le voyais, je sais pas, 15 fois dans la semaine, quoi. Pulp Fiction, Kusturica, du grand Kusturica, Underground, Le Temps des Gitans, ces films-là. Le regard d'Ulysse de Théo Angelopoulos, que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Mais aussi Un air de famille avec Bacri. Enfin voilà, énormément de films. En fait, c'est un cinéma classé art et essai, mais qui avait une programmation assez diverse, dans laquelle il y avait des choses pointues et des choses plus grand public. Et également, je sais pas, des films kabyles, par exemple, où tout d'un coup, on voyait les mamas kabyles du quartier débarquer pour la première fois au cinéma. Des débats nombreux aussi avec les spectateurs, où il y avait des échanges, les équipes de films invitées. Donc tout ça, c'était très, très riche. Et je pense que en faisant ce petit boulot-là, ça a fait partie également de ma formation. Par contre, j'étais vraiment le pire projectionniste de l'histoire du cinéma. J'ai fait pas mal de conneries, j'ai invité des amis. En fait, le soir, parfois, quand je fermais le cinéma, je faisais rentrer quelques potes. Et puis, j'ai souvenir d'une projection de Pulp Fiction mémorable avec quelques amis dans la salle. Et où les voisins, le lendemain, se sont plaints d'avoir eu du bruit plus tard que prévu, etc. Enfin bon, tout ça m'a coûté quand même ma carrière de projectionniste. À un moment, la directrice m'a dit « Bon, bah, ça suffit, maintenant tu retournes à la caisse, quoi. » Après, j'ai fait beaucoup de téléphone, beaucoup de télémarketing, de réception d'appels. J'ai été conseiller clientèle chez Orange, toutes ces choses-là. J'étais en plus, je me souviens, dans un centre d'appel où il y avait Mehdi Sadoun, qui aujourd'hui fait son chemin lui aussi de son côté. Et on rigolait bien, quoi. C'était un petit boulot, mais on passait beaucoup de temps en salle de pause. Il y avait beaucoup de gens qui avaient justement des passions, que ce soit dans la musique, énormément de domaines. Et c'était un peu pour nous, pour la plupart des gens qui étaient là, un peu une étape avant de réaliser, on l'espérait en tout cas, de pouvoir réaliser nos rêves. Je pense que j'étais beaucoup dans une forme d'urgence, de par déjà la précarité de ma situation. J'avais pas du tout de parachute, j'avais pas du tout de filet de sécurité. Quand je jouais parfois au théâtre sur des choses pas payées avec des gens qui avaient des familles qui les soutenaient, etc., eux retournaient dans leur famille et moi j'allais faire de la manutention ou du téléphone derrière. Donc voilà, mais j'y croyais, je me battais et j'avais confiance dans l'avenir. J'étais dans l'urgence, mais je m'amusais bien. J'étais insouciant quant aux huissiers qui passaient chez moi pour me saisir ce que j'avais pas d'ailleurs. Donc quand ils arrivaient, je mettais la télé, le magnétoscope à l'époque, VHS, sur un chariot à roulettes, je le mettais chez le voisin et puis le voisin me disait, c'est un peu le voisin de mon court-métrage, s'il y a des gens qui l'ont vu ou qui le verront. Je me suis vraiment inspiré. D'ailleurs, j'ai tourné ce court-métrage dans le deux pièces de la cité où j'ai habité pendant, 17 ans de ma vie, quoi. Et donc, ouais, j'étais à la fois précaire, à la fois dans l'urgence, mais à la fois avec une confiance très grande dans l'avenir et un plaisir au quotidien de vivre plein de choses, quoi. Enfin, voilà, j'étais pas du tout abattu ni figé de peur de ne pas y arriver. Je faisais, quoi, en fait. C'est en arrivant à la trentaine, je commençais à bien rentrer dans ma vie d'adulte et je me disais que cette précarité-là, peut-être qu'à un moment, j'allais commencer à être usé par ça. Et je préférais le voir venir et éventuellement changer mon fusil d'épaule avant de voir venir l'amertume ou l'usure de mon rêve, quoi. Et finalement, c'est pile à ce moment-là que les choses se sont réellement, débloquées dans mon métier de comédien. D'abord au théâtre, puis ensuite à l'image. Tout s'est fait vraiment petit à petit. Même quand j'ai joué dans Un prophète, qu'on est allé à Cannes, qu'on a fait le tour du monde avec ce film, que le film a même été nommé aux Oscars, que voilà, j'ai accepté des festivals dans plein de pays. Et j'ai pris cette occasion géniale de faire le tour du monde avec ce film. Mais après, je ne savais pas du tout si réellement les choses allaient se pérenniser, si réellement on allait penser à moi pour d'autres types de rôles. À nouveau, je n'étais pas guidé par la peur. Je me disais, si on ne me propose pas de trucs plus intéressants que ce qu'on me propose là en ce moment, bah, j'aurais vécu ça, quoi. Voilà, ça aurait été une belle expérience dans ma vie et je l'aurais vécu. Et après, je dirais que j'ai posé mes pierres une à une et petit à petit, et je suis dans un métier dans lequel tout reste précaire. Même si aujourd'hui on m'a donné un statut, que les choses se passent, je vais dire, très très bien depuis plusieurs années, j'ai aucune assurance sur l'avenir. Hein. Mais je suis guidé par ma passion et tant que les choses se passent bien, j'en profite, quoi. J'étais intimidé quand j'ai commencé à dire que je faisais ce métier, quoi. Et donc au théâtre au début, mon père était acteur de théâtre, j'avais énormément d'admiration pour lui, il est mort jeune, et je pense que cette figure-là, à un moment, me donnait du mal à me déployer moi-même, et j'étais assez intimidé par, je dirais, les gens qui affichent leur confiance, en fait, qui semblent avoir une grande confiance en eux. Mais ensuite, quand j'ai compris que la véritable confiance était très différente de se la raconter ou d'une forme d'arrogance ou de choses comme ça, sincèrement, j'ai plus été intimidé par personne, en fait. Je me fais tout petit quand je suis avec des gens que j'admire, quoi. Mais rapidement, s'ils me donnent la place de les tutoyer et d'être d'égal à égal avec eux, ça arrive, quoi. Alors, quand j'ai été prénommé au César, donc c'était l'année du prophète, pour un film qui s'appelait « Qu'un seul tiel et les autres suivront » de Léa Fener, on devait choisir un parrain, demander à quelqu'un d'être notre parrain pour cette soirée des révélations au César. D'ailleurs, je suis parrain tous les ans maintenant, depuis. Et à ce moment-là, j'adorais Jean Rochefort. Pour moi, il représente un esprit de ce métier qu'avait aussi Bacri, je pense, et un flambeau que j'espère pouvoir continuer de faire vivre aussi sur une manière de faire ce métier que je pourrais vous décrire. Mais bon, si on voit Jean Rochefort, peut-être on comprend, quoi. Et donc, je lui ai demandé d'être mon parrain. Tout le monde m'avait dit qu'il refuserait parce qu'il n'était pas très en forme à ce moment-là, etc. Et il était venu. Il était venu et on avait longuement parlé ce soir-là. Il m'avait donné vraiment énormément de confiance. Il avait pris le temps de regarder le film dans lequel j'avais joué. Il avait énormément de bienveillance. Et puis, de temps en temps, il me passait un coup de fil pour prendre des nouvelles. Moi, je n'osais pas trop l'appeler. J'étais très impressionné par lui. Mais à chaque coup de fil qu'on a eu ensemble, c'était des éclats de rire. Et je ressortais de ces coups de fil vraiment rechargé de plein de vitamines, quoi. C'était assez paradoxal parce que d'un côté, j'ai commencé quand j'avais 8 ans dans une pièce d'un ami à lui sur lequel il m'avait branché. J'étais en école primaire, quoi, à 8 ans. Et je jouais au théâtre un soir sur deux, juste comme ça, pour donner... je rentrais sur scène, j'avais deux répliques. Puis j'ai grandi avec lui dans les coulisses des théâtres. Mais ça, même depuis tout petit, il m'emmenait beaucoup avec lui. Il m'a écrit un rôle aussi ensuite dans une pièce adaptée de l'auteur Tahar Ben Jelloun, qu'on a joué dans beaucoup de festivals, en tournée et tout. Et donc ça, c'était, je dirais, jusqu'à 12-13 ans. Et à 12-13 ans, je lui dis que je veux faire ça, quoi, que je veux devenir acteur. Et là, par contre, Il était très inquiet. J'ai senti que vraiment, c'était une énorme angoisse pour lui de me voir embrasser ce chemin-là. Et bon, il m'a dit évidemment, passe ton bac d'abord, parce que j'étais à deux doigts de tout arrêter, le collège, tout ça. Et il m'a encouragé à démarrer, pourquoi pas ça, mais à avoir quand même un certain bagage de culture générale. Et quasiment juste avant sa mort, quand j'avais 22 ans, j'ai joué une pièce dans un petit théâtre à Paris, et là, il venait tous les soirs. Et je crois qu'à ce moment-là, il m'a vraiment donné sa confiance, quoi. Donc, c'est une chose d'ailleurs qui passe un peu sans les mots. Mais avant qu'il parte, en tout cas, il m'avait transmis sa bénédiction et sa confiance par des gestes, par des regards, par quelque chose qui ne tient pas dans les mots. C'est les années de ma jeunesse, donc sans nostalgie, il y a plein de belles choses. Quand on a 44 ans et qu'on repense à ses 20 ans, c'est évident qu'il y a plein de beaux souvenirs, mais sans nostalgie, parce que je préfère mille fois ma vie maintenant que celle que j'avais à l'époque. Et quand j'y repense, je suis content du chemin parcouru et du chemin qui continue, quoi. Parce qu'en même temps, voilà, j'ai jamais l'impression d'être arrivé à quoi que ce soit. Avec un déguisement, on peut exprimer d'autres choses que celles qu'on peut exprimer dans la vie. On peut être tous à certains moments figés un peu dans nos identités et se définir comme... enfin, d'une manière qui peut nous réduire un peu. Et les personnages, en fait, ça permet de jouer sur une palette très très large d'humanité. De mieux comprendre les autres, de mieux les connaître, de parcourir le monde, de se découvrir aussi soi-même dans différentes couleurs, et puis de faire plein de métiers, quoi. Quand on m'a dit « qu'est-ce que tu veux faire comme métier ?», c'était un peu difficile de choisir quand j'étais petit. Et là, voilà, pendant 3 mois, je suis sociologue, 3 mois, je suis médecin, 3 mois, je suis... dealer, après je deviens flic de dealer, enfin voilà, c'est formidable, c'est le plus beau métier du monde que je fais.
L'argent de poche.